Malgré tout, donc, effectivement, cette année, c'est les. On n'a rien célébré du tout, d'ailleurs, mais globalement, c'est les 120 ans après la découverte de la radioactivité, donc par Becquerel et puis Pierre et Marie Curie. Donc, je vous ai raconté cette histoire-là une autre fois. Et cette affiche qui est un peu floue, mais qui était floue de toute façon, elle était comme ça. C'était l'affiche qui avait été faite pour introduire une exposition, justement, il y a 20 ans. Pour célébrer le centenaire, parce que là, il a été célébré. Il y a eu le retour des cendres de Pierre et Marie Curie au Panthéon. Ça, vous vous en souvenez sans doute. Et puis autre, donc. Et l'Académie des sciences m'avait demandé, comme j'avais fait déjà une autre exposition avant, d'imaginer une exposition qui irait dans les écoles. Donc, il fallait qu'elle soit très, très modulable. Et donc, il y avait l'affiche, voilà, ici, donc, qui annonçait cette exposition. Et du coup, cette exposition continue, donc 20 ans après, elle va encore dans des écoles et sur invitation, elle est basée à Saclay, et quand les gens la demandent, et ben hop, on la sort et puis on la présente. Et ça, donc, c'était l'affiche de l'autre, la première exposition que j'ai faite, vous voyez, c'était quelque chose de. Voilà, on apportait les applications de la radioactivité, C'était très voilà, c'était ça avait été fait par des spécialistes de la communication. Une belle affiche, on retrouve la cerise pour l'irradiation des aliments. Vous avez, on va en parler tout à l'heure, donc la préservation du patrimoine artistique. Alors bien sûr, là on parlait aussi de l'électronucléaire, il y avait les sciences de la terre, etc. Donc puis la radioactivité naturelle dans son ensemble. Alors on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors j'ai remis quand même quelques mots sur qu'est-ce que c'est que la radioactivité. Je suis désolé pour ceux qui connaissent ça largement aussi bien que moi. Mais bon, c'est pour recaser un petit peu les choses. Puis après, on passera évidemment aux applications. Alors historiquement, juste un petit rappel. Donc 1896, 120 ans, Becquerel trouve des caractéristiques particulières. Une émission de rayonnement qui n'a rien à voir avec les rayons X, que Röntgen venait de découvrir quelques mois avant, et il appelle ça rayon uranique, et il pense que c'est lié, en fait, à l'uranium. Et puis, c'est Marie Curie, puis son mari Pierre, qui va venir l'aider, qui démontre qu'en fait, c'est une propriété qui touche beaucoup plus d'éléments. Mais à l'époque, vous voyez, on croyait que c'était simplement les descendants de l'uranium et du thorium, jusqu'à ce qu'on arrive à nouveau vers la stabilité du bismuth et du plomb. Simplement cet élément. Et puis, c'est les enfants, Irène donc Curie et son mari Frédéric Joliot, donc les Joliot-Curie, qui vont démontrer qu'en fait, ce phénomène de radioactivité touche tous les éléments de la classification, depuis le premier, l'hydrogène, jusqu'au dernier. Alors, qu'est-ce que la radioactivité ? Alors en fait, bon, il faut évidemment reprendre l'atome. Donc dans l'atome, il y a un noyau. Dans ce noyau, il y a des protons et des neutrons qui sont bleus et rouges là sur le schéma. On va dire que ça va correspondre donc forcément aux propriétés nucléaires de l'atome, par définition. Et puis à côté, vous avez des électrons qui tournent donc autour. Et ce sont ces électrons qui vont faire des échanges avec d'autres atomes, fabriquer des molécules, etc., des échanges de molécules. Et ça, donc, en fait, c'est la chimie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a deux caractéristiques dans un atome. Il va y avoir le noyau avec ses propriétés nucléaires, qui vont dépendre de son nombre de protons et de neutrons. Et puis, il va y avoir donc les propriétés chimiques de l'élément. Et vous savez que c'est comme ça qu'on caractérise, d'ailleurs, un élément. Hein. On le caractérise par la chimie avant tout. Hein. Donc c'est ce qui était rappelé ici. Alors le noyau, évidemment, ben, la composition de ce noyau confère à l'atome ses propriétés nucléaires. Le nombre d'électrons donc dans un atome, il est précis. Si vous avez de l'arsenic, c'est 33 électrons, c'est de l'hydrogène, il y en a un, etc. C'est de l'uranium, il y en a 92. Mais en revanche, donc, son nombre de protons doit être le même, puisque vous vous souvenez, électrons-protons ont des charges identiques en valeur absolue, plus pour le proton, moins pour l'électron, mais son nombre de neutrons peut varier. Et évidemment, si ça varie, eh bien, les propriétés nucléaires des noyaux, si on a plusieurs noyaux qui correspondent à un même élément, puisque le nombre de protons sera identique, si son nombre de neutrons est différent, eh bien, on va avoir des propriétés nucléaires, cette fois-ci différentes, mais des propriétés chimiques identiques. Et la stabilité d'un noyau dépend, vous voyez, du strict équilibre entre son nombre de protons et son nombre de neutrons. Donc là, il y a un exemple avec le néon 20, vous voyez, ben, j'ai autant de protons que de neutrons, 10-10, tout va bien, j'ai un noyau qui est stable. Mais s'il y a un déséquilibre, ici par exemple, où j'ai 6 protons d'un côté et 4 neutrons de l'autre, par exemple, eh ben, il va évidemment modifier sa structure. Si par exemple, il va transformer, vous voyez ici, un proton en neutron, pour revenir vers la stabilité. Voilà. Et évidemment, ça ne se fait pas tout seul, donc il émet en même temps donc, des rayonnements. Et c'est ce phénomène qu'on appelle radioactivité. C'est Marie Curie elle-même, vous vous souvenez, je vous l'ai raconté, qui a défini le mot émission de rayonnement égale radioactivité. Donc là, voilà, on est passé du carbone 10, qui est tout à fait instable, et au-dessus, au bore 10, qui est stable, autant de protons que de neutrons. C'est la stabilité pour les petits noyaux. On dit qu'il est donc radioactif. Donc, ça, c'est ce que je disais. Dans un atome, il y a autant d'électrons qui gravitent autour du noyau que de protons dans ce noyau. Je ne vais pas insister trop là-dessus, hein, vous inquiétez pas, hein, C'est juste pour qu'on comprenne un petit peu un certain nombre de ces applications. Et vous voyez, ce qu'on appelle isotopes, ce sont des éléments qui ont le même nombre de protons, donc le même nombre d'électrons, mais un nombre de neutrons différents. Et ces isotopes, ils ont forcément le même comportement chimique s'ils ont le même nombre d'électrons. Alors, bon, vous en avez là, l'hydrogène, vous voyez, il en a trois. Alors, il y a l'hydrogène 1, c'est-à-dire que j'ai qu'un seul proton, il est stable. L'hydrogène 2, il y a un proton et un neutron, hein. Il me faut toujours qu'un proton, de toute façon, autrement, c'est plus de l'hydrogène, hein. Et puis, bah, vous avez le 3, il y a 2 neutrons pour un proton, alors là, c'est trop hein, pour ce pauvre proton. Et ben voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, il va transformer un de ses neutrons en proton, c'est une histoire que je ne vous raconte pas, c'est la suite, mais donc il va émettre un rayonnement, il va se transformer en hélium-3, et il est donc radioactif. Eh bien, tous les éléments de la classification possèdent plusieurs isotopes. Alors il y en a qui n'ont que des isotopes radioactifs, mais vous en avez 82 sur les 118, 82 qui ont des isotopes stables, c'est-à-dire là où le noyau est stable, et puis ben, là où le noyau est instable, radioactif. Mais ils ont tous au moins, vous voyez, ça c'est le premier, ils ont tous au moins un isotope radioactif. Et dans la nature, l'uranium en a trois, les deux plus importants, c'est l'uranium-235 et l'uranium-238. Et on utilise ça évidemment dans un phénomène particulier qui s'appelle la fission, pour faire de la chaleur, pour faire de la vapeur, et pour faire tourner donc des turbines, et pour faire de l'électricité. Alors vous avez ici, voilà, la classification. Alors c'est la classification d'aujourd'hui. Elle est pas prête de changer. Moi je prends les paris que d'ici une génération, c'est beaucoup, hein, d'ici 25 ans, il va plus rien se passer. Tout simplement parce que le 118 qui est là, tous ceux qui sont dans la dernière colonne, présentent une stabilité relativement importante par rapport à d'autres. Et même là, on a des durées de vie qui sont inférieures à la milliseconde. C'est-à-dire que ce qu'on appelle stabilité, vous voyez où on en est. Donc, ça veut dire que le suivant, si on faisait le 119, il serait, je sais pas, en milliardième de seconde, ou même moins que ça. Donc, on n'est pas prêt de le voir. À mon avis, je sais pas ce qu'il faudra qu'il se passe pour qu'on ait quelque chose. On n'a pas vraiment besoin. Hein. Il y en a qui ont fait de la chimie sur le 106. Ouais, le 106, il est en milliseconde aussi. Hein. Alors, bon, dire qu'on va faire de la chimie sur des éléments qui ont des durées de vie d'un milliseconde, c'est vraiment pour faire des publications, mais c'est tout. Hein. On n'aura pas le prix Nobel avec ça. Hein. Alors, en bleu, ici, donc, c'est ceux qu'on trouve sur la planète, donc ça peut appeler naturel. Donc, vous voyez, il y a des éléments qui sont uniquement radioactifs, mais qui existent dans la nature. Et puis, en vert, c'est ceux qui sont uniquement artificiels. On peut les rencontrer dans certaines étoiles, comme à la case 43, le technétium, ou à la case 61, le prométhéum. Ils existent dans les étoiles, mais... ils ont existé probablement sur la planète, mais comme la planète elle a 4,5 milliards d'années et qu'ils ont des durées de vie qui sont même en millions d'années, ben 4,5 milliards d'années après, il n'y en a plus. Hein. Alors ça, c'était le... Ça introduit bien ce que je vais vous dire. C'est un extrait du discours Nobel, hein, ce qu'on appelle le discours Nobel ou conférence Nobel, d'Irène Joliot en 1935. Vous savez, où elle a eu le prix Nobel de chimie avec son mari. la diversité des natures chimiques, la diversité des vies moyennes de ces radioéléments synthétiques permettent sans doute des recherches nouvelles en biologie et physico-chimie. Parce que ce qui devenait important avec la découverte des enfants, c'est-à-dire des Joliot-Curie, c'est que d'un seul coup, ce phénomène de radioactivité intéressait tous les éléments. Donc jusque-là, si vous voulez, c'était, bon, on avait de l'uranium radioactif, bon, du radium radioactif, mais on faisait pas grand-chose avec ça. Là, d'un seul coup, voilà, le fer pouvait être radioactif, le nickel pouvait être radioactif, etc. Donc, c'était des éléments qu'on connaissait. Le carbone pouvait être radioactif, l'azote aussi, enfin. Donc, en biochimie, effectivement, en physico-chimie, ça devenait très très intéressant. La méthode de ce qu'on appelle les indicateurs radioactifs, jusqu'alors réservés aux éléments de masse atomique élevée, je viens de vous dire, c'est l'uranium et autres, peut être généralisé à un très grand nombre d'éléments distribués dans toute la classification périodique. En biologie, par exemple, la méthode des indicateurs, employant des radioéléments synthétiques, permettra d'étudier facilement le problème de la localisation et de l'élimination d'éléments divers introduits dans les organismes vivants. Il n'est pas utile, dans ces recherches, d'introduire des quantités importantes de l'isotope radioactif. Ces quantités sont fixées par la sensibilité de l'appareil. C'est-à-dire que la sensibilité, effectivement, des appareils qui détecte la radioactivité, si vous voulez, elle peut être 1000, même 1 million de fois meilleure que la chimie classique. Donc c'était très très important à l'époque. Et ça ouvrait des voies, d'ailleurs, qu'on a utilisées, bien sûr. Alors, la radioactivité artificielle, vous avez ici, donc je vous ai dit, il y a le technétium. Donc, il avait existé dans la planète, il a disparu une fois que ses durées de vie étaient terminées. Et en 1937, l'homme, des Américains, l'ont refabriqué à l'aide donc d'un cyclotron, dont vous avez un schéma ici. Même chose pour le prométhéum, qui était l'élément 61, lui découvert en 45. Et puis tous les éléments au-delà de l'uranium, c'est-à-dire l'uranium, c'est le Dossard 92, donc tous à partir du 93 jusqu'au 118. Et puis évidemment, les autres, ben, ce sont tous les isotopes de tous les autres éléments, hein, le fer, le nickel, dont je vous ai parlé, etc., qui ont eux aussi donc des éléments, des isotopes radioactifs. Alors la radioactivité, ça se voit pas, mais ça se détecte. Comme là, si vous voulez, en ce moment où il fait très très froid, ça j'ai pris ça chez moi matin, c'était très clair, oui. Il y a pas de triche, hein, c'est la même photo, sauf que après il a fait un peu plus chaud, on les voyait plus les toiles d'araignée, hein. Mais voilà, la condensation de la vapeur avait fait que, ben, à 8h du matin, on les voyait. C'est-à-dire, celle-là, évidemment, est prise avant la deuxième. La radioactivité, c'est pareil. Ça ne se voit pas, mais ça se détecte, et ça se détecte très bien. Et alors, c'est un processus qui décroît avec le temps. Ça, c'est un problème. Si un jour je viens vous reparler de ce qu'on fait des déchets radioactifs, c'est quelque chose, en fait, de très important, parce que, contrairement à un composé chimique, à un poison chimique, ben, si vous stockez un poison chimique, vous revenez dans un milliard d'années, le poison chimique est toujours là. Alors que votre composé radioactif, à condition évidemment que ce ne soit pas l'équivalent du poison chimique, parce qu'en termes de chimie, ce serait pareil, mais votre composé radioactif, eh ben, sa radioactivité aura disparu. Hein. Et donc, cette disparition, avec le temps, est reflétée par ce qu'on appelle la période. La période, vous voyez, c'est le temps au bout duquel la moitié, en fait, a disparu. À deux périodes, il reste le quart. À trois périodes, il reste le huitième. À quatre périodes, il reste le seizième, etc. Et donc, en gros, après 10 périodes, en fait, il en reste à peu près le millième. Et donc, 20 périodes, le millionième. Bon, à un moment, il n'y en a plus, quoi. Hein, bon. Donc, alors évidemment, les périodes, bah, ça va de quelques millionièmes de seconde, auquel cas vous n'avez pas le temps de le voir, mais jusqu'à des milliards d'années, comme pour l'uranium. C'est pour ça qu'il en reste encore dans la planète. Lui, il en reste. Les autres ont disparu, mais lui, il y en a encore, parce que il a 4,5 milliards d'années. Donc, après une période, 4,5 milliards d'années, c'est l'âge de la Terre, on en a perdu la moitié, mais il en reste encore la moitié. Bon. Et il en restera le quart dans 4,5 milliards d'années. Il faut se donner rendez-vous à ce moment-là, mais bon, je pense qu'il se passera des choses d'ici là. Alors, l'unité de radioactivité, l'unité de ce qu'on appelle l'activité, c'est le becquerel. Alors, en fait, l'ancienne unité, vous voyez, c'était Marie Curie qui l'avait définie. Elle avait isolé le radium, c'est la première personne à avoir isolé cet élément, et elle avait dit, bah, donc j'ai un certain nombre de rayonnements qui sont émis par ce gramme de radium, et je vais prendre comme unité le nombre de rayonnement émis par ce gramme de radium par seconde. Alors le problème, c'est que, vous le voyez, c'est 37 milliards de désintégrations par seconde. Ça doit pas... Je vais le mettre plus tard, mais vous verrez, tout à l'heure, votre propre radioactivité actuellement n'est pas négligeable non plus. Et alors ça avait un avantage parce que ça correspondait, si vous voulez, à des choses que notre esprit humain arrive bien à comprendre. Le gramme, on sait ce que c'est, et la période, c'est 1800 ans. C'est-à-dire, c'était vraiment une période, je ne veux pas dire moyenne, mais vous voyez, quand même entre les millionièmes de seconde et puis les milliards d'années. À 1800 ans, on est à peu près au milieu. Bon. Et puis, bonjour, là, tous les scientifiques qui cogitent là-dessus se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce 37 milliards? Qu'est-ce que ça va faire là? L'unité de temps, c'est la seconde. Donc, on va prendre une désintégration par seconde. Et on va l'appeler comment? Ceux qui ont découvert ça, ils s'appelaient Curie et Becquerel. Curie, c'est déjà pris. Donc, on l'a appelé Becquerel. Donc, ça a permis au canard enchaîné de titrer juste après. On connaissait le poulet au Curie. Il va falloir s'habituer au poulet au Becquerel. Et donc, le problème de cette unité, c'est qu'elle est toute, toute petite. C'est-à-dire qu'on parle toujours en milliers de becquerels ou en millions de becquerels, alors que ça ne représente pas grand-chose, un million de becquerels. Mais quand vous êtes devant votre poste, que vous ne savez pas ce que c'est, hein, vous voyez, le français moyen, il dit « Ah, un million, quand même, un million, c'est un million. » Et puis le physicien qui est là, il dit « Mais non, c'est rien. » Vous voyez, regardez, un becquerel d'iode 129, c'est 0,000157 grammes. C'est-à-dire que quand vous avez 1 million de becquerel d'iode 129, vous n'avez que 0,157 grammes, vous n'avez que 157 milligrammes. Hein. Donc pour le physicien, c'est pas grand-chose, mais dès qu'on manipule des grands chiffres, évidemment, quand on ne sait pas de quoi on parle, ça inquiète. Alors voilà, bon, dans le corps humain, vous voyez, on a du potassium 40, à peu près donc 190 000 désintégrations par minute là, que vous balancez sur vos voisins, et eux aussi d'ailleurs. Carbone 14, 140 000. Vous savez que c'est le problème de la datation, on en parlait tout à l'heure. La datation au carbone 14, elle est liée au fait que justement, on a du carbone 14 dans notre corps. Et vous voyez, notre activité, c'est à peu près 0,17 becquerel par gramme, c'est-à-dire 170 becquerel par kilo. Donc en fonction de votre masse, vous voyez ce que ça fait, quoi. Alors si on se met en micro-becquerel comme font les antinucléaires, on est tout de suite en milliards, évidemment. Et c'est jamais que notre radioactivité naturelle. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec l'industrie nucléaire ou autre. C'était vrai du temps de l'homme de Cro-Magnon ou Louis XIV ou Jeanne d'Arc. C'était pareil. Hein. Bon, ça n'a pas beaucoup bougé depuis. Donc, ce qui veut dire que, puisque la radioactivité est un phénomène naturel, dans la nature, cette valeur n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on a entendu des gens qui prônaient le zéro becquerel. Zéro becquerel, ça n'a aucun sens. Ça n'est impossible. Hein. Notre référence ne peut être que la radioactivité naturelle. Vous voyez, cette maison-là, si vous mettez un compteur dedans, je peux vous dire qu'avec le granit et donc l'uranium qu'il y a autour et en dessous, on évacue les gens à Fukushima pour beaucoup moins que ça. Hein. Ça plougresse quand ? C'est évidemment une maison qui est très, très célèbre parce que voilà, c'est joli, mais la radioactivité, c'est pas triste. Hein. Quand vous êtes dans Saint-Malo intramuros, moi je suis allé avec un détecteur, on avait présenté notre exposition là-bas justement, c'était impressionnant, hein. Et il y a l'école maternelle, là, qui était juste à côté. Alors, ça, c'est donc le nombre de... le rayonnement lui-même. Bon, après, évidemment, il faut voir l'effet de ce rayonnement. Qu'est-ce que c'est qu'un rayonnement? C'est quelque chose qui transporte de l'énergie. Et cette énergie, il va la dissiper par unité de masse. C'est ce qu'on appelle la dose. L'énergie divisée par la masse, c'est la dose. Et l'unité d'aujourd'hui, c'est le gray. L'ancienne unité du temps des Curie, c'était le rad. Maintenant, on n'est plus en rad, on n'est plus resté en rad, si je puis dire, on est en gray. Un joule par kilogramme, le joule étant l'unité d'énergie. Peu importe, on va voir les chiffres tout à l'heure. Alors évidemment, il ne suffit pas de dire, il y a l'énergie comme ça que j'absorbe. Si on regarde l'effet biologique, on se dit, attention, quand même. D'abord, ça dépend si on a une irradiation externe ou si on a ingéré le radioélément. Ça va dépendre si, une fois qu'on l'a ingéré, il va se fixer quelque part, comme par exemple l'iode sur la thyroïde, ou s'il va se répartir sur le corps entier. Et puis ça va dépendre de la nature du rayonnement, c'est-à-dire s'il va dissiper son énergie sur quelques microns, c'est-à-dire millièmes de millimètres, comme le font les particules alpha, ou si au contraire, il peut traverser des mètres, et donc évidemment les dégâts ne seront pas les mêmes. Alors vous voyez là, à ce moment-là, on remplace la notion de dose par ce qu'on appelle l'équivalent de dose, et l'unité c'est le sievert. Je dis peu importe, mais comme on aura l'occasion de revoir ces mots-là tout à l'heure, je mets là. Donc si on veut résumer, si vous voulez, la quantité de radioactivité, elle s'exprime en becquerel. Si elle est absorbée par un individu exposé, cette quantité de radioactivité va être mesurée par la dose, c'est-à-dire par le gray. Et l'effet produit sur l'individu exposé sera mesuré par ce qu'on appelle le sievert. Alors le sievert a un avantage, c'est que, en fait, vous comparez des choses comparables, c'est-à-dire il n'y a pas les bons sieverts de la nature et les méchants sieverts de l'artificiel. Un sievert, c'est un sievert. Voilà, et les effets sont les mêmes exactement. Donc, je reprends un petit peu la planche de tout à l'heure, radioactivité artificielle, et on utilise du coup cette radioactivité depuis 1934 dans diverses applications. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, soit on veut utiliser l'émission de rayonnement, qui est le propre de la radioactivité, soit on veut utiliser les propriétés physiques et surtout chimiques de l'isotope radioactif. Je vous rappelle que cet isotope radioactif, par exemple du fer radioactif, va avoir le même comportement que du fer normal. Donc, on va pouvoir suivre le fer normal à la trace, d'où l'appellation de traceur. Voilà les applications. Alors, les propriétés utilisées, donc, la décroissance, l'émission de rayonnement, la sensibilité de détection. La sensibilité de détection, si vous voulez, un atome, c'est-à-dire un noyau émet un rayonnement. Ce rayonnement, vous pouvez le détecter. Donc vous êtes en détection, vous pouvez être en détection au niveau de l'atome. En chimie, on ne sait pas faire ça. Hein. En chimie, c'est au moins des milliards d'atomes. Donc vous voyez la différence quand même entre les deux. Très très grande sensibilité de détection. Et l'identité chimique, c'est les traceurs, c'est ce dont je viens de vous parler. Les domaines. Alors la biologie, la médecine, les sciences de la Terre, l'industrie et la préservation du patrimoine culturel. Sauf quelques cas, ça c'est très très important. L'utilisation des rayonnements n'induit pas dans le matériau irradié une nouvelle radioactivité qui s'ajouterait à sa radioactivité naturelle. Je vous parlais tout à l'heure de l'irradiation des aliments. Si vous irradiez de la viande pour la conserver, elle ne va pas devenir plus radioactive qu'elle n'est. Autrement, évidemment, on n'utiliserait pas. Hein. Donc, c'est physiquement impossible. Il y a des seuils d'énergie qui sont là pour créer de la radioactivité. On est toujours en dessous de ces seuils. Ça n'est pas possible, physiquement parlant. Lorsque des radioéléments sont dispersés à l'intérieur d'une enceinte, ils sont choisis pour leur durée de vie, les plus courtes possibles, en général inférieure à quelques jours. Alors pourquoi j'écris ça là? C'est parce que quand on écrit à l'intérieur d'une enceinte, évidemment, ça peut être à l'intérieur du corps humain. Et donc, ben ça, quand on fait ça, vous le savez, c'est en médecine, hein, essentiellement, soit pour soigner, soit pour détecter. Je vais vous donner des exemples dans un instant. Évidemment, on prend des durées de vie extrêmement courtes pour que ça disparaisse très très vite, inférieure donc à quelques jours. Et voilà les applications donc médicales, pour commencer. Trois types d'applications médicales. Il y a les applications thérapeutiques, sur le traitement du cancer, ou ce qu'on appelle la réhabilitation. Il faut savoir que, c'est les chiffres de l'Académie de médecine en France, on guérit chaque année 30 000 personnes du cancer. Pas soignées, guéries. C'est-à-dire des personnes qui ne redévelopperont plus un cancer d'ici 25 ans. C'est la définition de la guérison. Parce que si au bout de 25 ans, il redéveloppe un cancer, on se dit que peut-être s'il n'en avait pas développé un 25 ans avant, il en aurait quand même peut-être développé un donc 25 ans après, tout simplement parce que l'âge est arrivé quand même. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut savoir. Donc, traitement du cancer, réhabilitation. Et puis, les deux autres points, vous voyez, c'est l'aide au diagnostic in vivo. Donc, ça, c'est toute l'imagerie médicale. Je vais vous montrer des images. Et in vitro, c'est ce qu'on appelle les dosages radio-immunologiques. Je vous donnerai des exemples. Et dans ce cas-là, évidemment, on applique les radiotraceurs à la trace. Alors, application thérapeutique. Alors, là, on utilise effectivement les effets du rayonnement sur la matière vivante pour la radiothérapie et sur la matière inerte pour la réhabilitation. Alors, ça veut dire quoi ? Effet du rayonnement sur la matière vivante, c'est-à-dire que la radiothérapie, que fait la radiothérapie ? Eh bien, elle va évidemment se focaliser sur la tumeur pour tuer les cellules cancéreuses. Le rayonnement ne tue pas que les cellules cancéreuses. le rayonnement. Et ici, alors là, les doses sont très très importantes, hein, n'ont rien à voir avec ce dont on parle. Donc le rayonnement, il choisit pas. Alors évidemment, c'est le médecin qui doit dire, par exemple, sur un cancer de la peau, on focalise évidemment sur la tumeur. Et la chance, entre guillemets, que l'on a, c'est qu'en fait, les cellules saines se régénèrent plus vite que les cellules cancéreuses. Autrement dit, et vous le savez, si hélas vous avez eu des gens dans votre entourage qui ont subi ce genre de traitement par ce qu'on appelle les rayons, hein, on m'a fait les rayons, hein, c'est l'expression qu'on emploie. Et donc, on fait ça en plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on fait une première fois. Donc, on, à chaque fois, de toute façon, on focalise le plus possible. Donc, on tue évidemment toutes les cellules qu'il y a dans cet espace-là. Il y a aussi quelques cellules saines, bien sûr, mais on tue surtout beaucoup de cellules cancéreuses. Et donc, on attend un peu que les cellules saines donc se régénèrent plus vite que les autres. Donc, ça diminue un peu, on recommence, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Alors, sur la matière inerte, pour la réhabilitation, ben, c'est ce qu'on appelle des greffages radiochimiques. C'est-à-dire, en fait, c'est de la chimie, hein. On fabrique des nouvelles molécules qu'on n'arrive pas à fabriquer, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, par la chimie classique, et qu'on arrive à fabriquer par un domaine qu'on appelle la radiochimie, c'est-à-dire où on utilise essentiellement le rayonnement pour fabriquer des nouvelles molécules. Alors bon, voilà les machines qu'on utilise pour le traitement du cancer. Ça, c'est les machines les plus modernes, hein. C'est celles d'aujourd'hui. Donc oui, alors vous avez là, on a simulé un crâne et vous avez donc l'appareil qui tourne. Vous avez ici, on voit bien ici la focalisation. Alors vous avez, voilà, ça c'est toutes les têtes. Donc là, ça vous permet effectivement d'avoir des diamètres différents pour envoyer le faisceau. Donc c'est soit des rayons gamma, soit des électrons. Alors vous avez aussi ce qu'on appelle la protonthérapie. Alors cette fois-ci, on utilise des protons. C'est encore beaucoup plus évolué. Puis vous avez même d'autres cyclotrons qui utilisent encore d'autres molécules, comme le cyclotron Aronnax. Ça devient là très, 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 très spécialisé, très particulier. Mais on arrive à faire de très, très belles choses. Alors, les réhabilitations, les greffages radiochimiques. Voilà, par exemple, la prothèse de hanche. Alors aujourd'hui, ces prothèses de hanche, donc les cotyles, hein, qui sont fabriquées, c'est un matériau plastique tout à fait particulier, fait par la chimie sous rayonnement, et qui est beaucoup plus résistant au frottement et au fluage que ce que fabrique la chimie classique. Et vous savez que dans le temps, c'est-à-dire on remonte à peu près à 25 ans, les prothèses de hanche, puisque c'est ça, donc vous avez la partie qu'on en mange dans le fémur, hein. Bon, désolé, hein. Et puis voilà. Et puis, ben, vous avez la partie en fait qu'on va cimenter donc dans la hanche. Et on peut pas faire ça évidemment 36 fois, quoi. Donc il faut qu'on ait une confiance très très grande dans le côté. Il faut pas qu'il suce, hein. Et le raisonnement qu'on faisait jusque dans les années 70-80, c'était bon, on attendait que les gens soient suffisamment âgés. 60-70 ans, parce qu'on dit ça va tenir 10 ans, donc bon, dans 10 ans, c'est pas trop où il en sera, bon. Maintenant, regardez, Johnny Hallyday, 43 ans, première prothèse, 48 ans, deuxième prothèse. Bon, il se déhanche moins quand même qu'avant, hein, mais quand même, voilà, si on n'a pas hésité, quelqu'un de 43 ans, parce que ça, vous le faites pas deux fois, hein, c'est dans des conditions, il faut tout retirer à ce moment-là, en fait, ça, c'est assez dramatique. Donc, il faut une bonne confiance. Un autre exemple, c'est sur ces lentilles cornéennes. Et voilà, la photo, exprès, elle n'est pas récente, mais j'ai assez exprès pour montrer que ça fait quand même déjà un certain temps. Alors, ces lentilles, en fait, elles ont une structure physico-chimique tout à fait particulière. Elles sont comme des plures d'oignons, si vous voulez. C'est-à-dire que entre chaque plure d'oignon, vous mettez un composé actif. En l'occurrence, ça, c'est le traitement du glaucome, donc c'est de la pilocarpine. Et cette petite couche, elle va s'user en fonction du temps, et donc elle va relarguer au niveau de l'œil la quantité que vous avez emprisonnée entre deux couches. Et puis c'est la couche suivante qui va s'user, etc. Et on ne sait pas faire ça en chimie classique. C'est en chimie classique, on sait fabriquer ce genre de composé. Mais le relargage, il est un peu décroissance exponentielle. C'est-à-dire, c'est beaucoup au début, et puis de moins en moins. C'est pas régulier. Alors que là, comme c'est emprisonné entre des couches, bah, vous mettez les quantités que vous voulez, toujours les mêmes. Et là, pour les gens qui supportent, si vous voulez, ils mettent la lentille une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Et puis voilà, ils y pensent plus. Hein. Alors qu'autrement, il faut mettre du collyre plusieurs fois par jour, et si vous oubliez, ben, j'allais dire c'est clair, mais ce serait un mauvais jeu de mots, vous devenez aveugle. Quoi. Alors, l'aide au diagnostic in vivo. Alors, ça, j'ai laissé cette vieille photo-là, parce que je vous montrerai des photos plus récentes après, mais ça explique bien, le principe. Hein. Donc, voilà, là, vous avez un calculateur, vous avez l'image, en fait, hein, c'est en fait de l'imagerie, là. Donc, le rayonnement, en fonction de ce qui va traverser, eh ben, ça remonte à un calculateur, comme vous le voyez ici. Et puis, vous avez on a l'image de votre cœur. Alors voilà une caméra qui est récente, celle-là. Donc, en fait, le système tourne, vous voyez, comme ça. Si vous avez peut-être déjà eu de faire, ça démarre comme ça, et puis vous le récupérez de l'autre côté. Alors moi, j'ai fait ça parce que, comme à 50 ans, j'avais plusieurs collègues qui avaient eu des ennuis, voire certains qui avaient disparu. Je m'étais dit, bon, c'est quand même bête, parce que tous les chefs de service de médecine nucléaire de France, ils travaillent dans mes bouquins, ils ont les bouquins sur leur bureau. Je dis, je peux quand même demander au moins à un qui me fasse un examen pour voir si tout va bien, quoi. Donc, alors, ça va, hein, c'est l'image du haut que vous regardez. Vous voyez, ça doit être fermé, hein. Si c'est ouvert, disons, si là, vous voyez des parties ouvertes en bas. Si vous le mettez en haut, ça, c'est que vous avez toute une partie de cœur qui est nécrosée, hein. Donc, en haut, il faut que vous ayez, voilà, le rond. Enfin, la preuve, c'est que ça, je vais donc de. Oui, ça fait 2005, celle-là, oui, donc ça fait quand même 11 ans. Bon. Alors évidemment, ma collègue de médecine nucléaire, il fallait bien qu'elle mette quelque chose sur le papier. C'est du traceur, ça, c'est du thallium 201, ça. Alors elle avait mis stress. Bon, j'étais tellement stressé que je me suis endormi sous la caméra. Donc quand je me suis endormi, elle était là. Quand je me suis réveillé, elle était quand même de l'autre côté. Parce que moi, quand j'ai rien à faire, je pouvais rien faire, là, donc je dors, parce que c'est pas perdre mon temps, quand même. Alors, voilà, donc ce qu'on appelle la caméra TEP. Alors ça, c'est autre chose. Donc, c'est une tomographie par émission de positons. Donc c'est PET en anglais, puisqu'évidemment, ils mettent les mots à l'envers. Hein. Bon. Alors, ça, c'est assez... vous allez voir quand même, ça fait de l'image. L'imagerie absolument magnifique, mais il faut voir la complexité qu'il y a derrière. Donc, on injecte au patient ce qu'on appelle un émetteur de positons. C'est-à-dire, un positon, c'est une particule complètement artificielle, c'est l'électron positif. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure que les électrons étaient négatifs, c'est vrai, tous nos électrons sont négatifs, mais il existe aussi des électrons positifs. Et c'est ce qu'on appelle l'antimatière. Mais les électrons positifs, évidemment, ils sont aussi stables dans le vide que les électrons négatifs, sauf que là, ils ne sont pas créés dans le vide, ils sont créés dans la matière. Donc tout de suite, ils rencontrent un électron classique, négatif. Alors ils se mettent à tourner autour l'un de l'autre dans une espèce de danse un peu folle, mais ça dure un millième de milliardième de seconde, à peu près, et ils se transforment en énergie. Hein. C'est E égale MC2 de Einstein, c'est-à-dire que... ben, toute la masse disparaît, se transforme en énergie, donc en photons. C'est les gamma que vous voyez là. Donc, ils sont émis, évidemment, à 180 degrés l'un de l'autre. Hein, conservation de la quantité de mouvement, ce qu'on apprend en première. Là. Tchou, comme ça. Et donc, vous avez les deux gamma qui partent, comme ça, du corps. Et pour savoir où ça a été émis exactement, et donc pouvoir faire l'imagerie, vous en prenez, par exemple, un... ici, il y en a un qui arrive sur le détecteur qui est ici. Et à ce moment-là, il interroge tous les détecteurs qui sont de l'autre côté en disant, est-ce que par hasard, dans le milliardième de seconde, parce que c'est à peu près ça, ou même moins que ça, qui suit ma détection, vous n'auriez pas par hasard détecté le même signal? Celui qui dit ah oui, et qui lui donne le temps, eh bien, le décalage entre les deux, donc en milliardième de seconde, vous donne la position. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Hein, entre les deux. C'est-à-dire que s'ils sont émis au centre, appareil, c'est-à-dire pile-poil au centre, bah, ils vont arriver en même temps sur les deux détecteurs. Mais s'il y en a un qui est émis là, évidemment, il va mettre un tout petit peu plus de temps pour arriver là que pour aller de l'autre côté. Et le delta, qui est en même pas un milliardième de seconde, permet de savoir que c'est là et pas là. Hein. Et bah, maintenant, vous avez des milliers de détecteurs. On fait des couches comme ça, très très fines, moins d'un millimètre, et ça vous fait des belles images. Mais évidemment, pour ça, ben, premièrement, il faut déjà produire le radioélément en question émetteur de positons. Donc ça, c'est fait dans un cyclotron. Il faut un cyclotron dans l'hôpital. En voilà un, par exemple, le fluor 18, qui était un émetteur de positons. Ensuite, ben, il faut récupérer l'espèce de petite cible métallique sur le cyclotron, aller la dissoudre, faire toute la chimie derrière pour l'incorporer à une molécule que vous allez vous métaboliser, parce que c'est pas comme ça. Hein. Donc ça, c'est une belle chimie qui se fait derrière. Puis il faut courir, injecter ça donc au patient, et puis faire l'image. Le fluor 18 que vous avez vu tout à l'heure, en fait, il a une période qui se compte en moins de 20 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, il en reste la moitié. Au bout d'une heure, il n'y en a plus que le huitième. Hein. Donc il faut courir vite dans les couloirs. Il faut se dépêcher de faire la chimie. Hein, et se dépêcher après de faire le traitement informatique. Alors voilà. Alors à l'intérieur de cet énorme truc, vous avez comme ça plusieurs couches de détecteurs. On met sur le lit et puis... Alors évidemment, il ne faut pas, si c'est la tête, on vous emprisonne évidemment pour que vous ne bougiez pas. Là, par exemple, voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est l'IRM, c'est un autre principe, mais c'est un peu pareil. Alors quand vous couplez l'image d'IRM, c'est-à-dire la résonance magnétique nucléaire, avec ce que je viens de vous dire, la caméra à positon, vous couplez une image statique, qui est celle-ci, qui est l'image de l'IRM, à une image dynamique, qui est celle donc de l'émission de positons. Vous voyez par exemple là, alors vous avez alors vous voyez si c'est votre cerveau, mais vous le voyez comme dans un bocal, hein. C'est votre cerveau quoi, hein, quand on est en train de faire l'image. Et puis on vous fait faire un calcul complexe de tête, vous voyez. Et donc vous avez des zones qui vont s'éclairer plus ou moins en fonction de ce calcul. Alors, vous voyez la différence entre calcul approximatif et calcul exact. Hein. Par exemple, on va dire, bon, 2,117 que multiplie 3,412. Bon, allez, à peu près, hein, ça fait combien à peu près? Bon, alors là, ça va vite, donc ça fait à peu près 7. Maintenant, on vous dit, non, attendez, vous essayez quand même de calculer, de me donner la réponse exacte. Ben, vous voyez, ce n'est pas les mêmes zones du cerveau qui s'éclairent. Hein. Voilà l'activation auditive. Hein, donc, vous avez des zones particulières. Alors avec l'autisme, c'est important ça, parce que après, si vous voulez, on peut essayer de trouver une thérapie en fonction. C'est très 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 intéressant. Et vous avez la même chose. Moi, j'ai vu des images, c'était assez amusant, où au patient, donc, on lui disait, mais une langue qu'il connaît pas. Par exemple, on s'assurait qu'il connaissait pas le chinois. On lui parle en chinois. Et donc, vous voyez, puisque c'est dynamique, hein, c'est pas là, vous voyez pas, mais je pourrais vous passer un film, vous voyez les zones, d'abord de l'audition, donc qui s'éclairent, et puis les zones de la compréhension. C'est-à-dire, essaye de comprendre. Et puis, les zones de la compréhension, elles s'éteignent au bout d'un moment, parce que vous dites, bon, c'est pas la peine que j'essaye, parce que de toute façon, je comprends rien. En revanche, l'audition continue, puisque vous l'entendez le chinois. Mais, vous savez plus de quoi. Et puis après, alors, vous dites quelque chose en français, mais les phrases n'ont ni queue ni tête, c'est-à-dire vous mettez des mots les uns à la suite des autres, mais ça veut rien dire, quoi. Et c'est pas les mêmes zones, c'est-à-dire vous avez évidemment l'audition qui s'éclaire, et puis vous avez les zones du chinois, mais les zones aussi d'autres qui s'éclairent un peu, et ça dure un certain temps, c'est-à-dire qu'on voit le cerveau, il a beau ne rien comprendre, mais il essaye quand même de recoller les morceaux pour voir s'il pourrait pas comprendre. Et puis au bout d'un moment, ça s'éteint, parce que non, j'y arrive pas. Bon. Puis après, vous faites un langage normal, comme ce que je suis en train de faire, si vous pensez que c'est un langage normal. Et là, ça s'éclaire, et puis ça continue, quoi. Voilà, ça reste éclairé. Donc c'est ce qui se passe en ce moment dans vos cerveaux. Voilà. Et alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, dès qu'il y a une maladie, dès qu'il y a quelque chose, on peut retrouver, on sait où il faut aller. Hein. Alors, je ne montre plus maintenant les images de démence sénile, parce que c'est pas très, mais on a la même chose. Vous faites l'IRM, vous avez un cerveau normal, et vous faites de l'image dynamique, et vous voyez des parties entières qui sont plus oxygénées, quoi. Hein. Voilà, le cerveau, il a beau être normal, mais bon, il est vieux, quoi. Bon. Alors, l'aide au diagnostic in vitro, maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dosage radio-immunologique ? Je vais vous donner un exemple tout de suite. Vous voyez, vous prenez par exemple un antigène non marqué et un anticorps. À chaque antigène, vous avez un anticorps spécifique. Hein. Alors, quand quand je fais des cours, je dis, c'est la clé et la serrure, hein, parce que souvent on trouve ça en biochimie. On vous parle de la clé et de la serrure, c'est-à-dire vous avez la clé et vous avez une serrure qui correspond. Antigène, anticorps. Ça, c'est le complexe. Bon. Et puis, elle est non marquée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de radioactivité. Et puis, vous changez, justement, dans l'un des atomes, un atome stable par un atome radioactif. Et vous avez, à ce moment-là, quelque chose qui devient radioactif. Et vous pouvez faire des dosages. Donc, je vous montre l'exemple ici. Par exemple, vous voyez, vous mettez plus ou moins d'antigènes marqués. Et donc, vous faites vos points et vous avez une jolie courbe. Et puis, alors, vous allez avoir quoi ? Une extrême spécificité. La spécificité, c'est la clé et la serrure. Hein ? Si vous mettez une autre clé, elle ne rentre pas dans la serrure. Et puis, la détection de la radioactivité. Alors, pour faire clair, parce que quand on dit ça comme ça, à froid comme ça, pas très clair, je vous montre un exemple. Vous savez sans doute que, et ça depuis très très longtemps, puisque la petite fille que vous avez là, c'est ma fille, qui est sage-femme d'ailleurs maintenant, et qui a passé 40 ans, donc il y a plus de 40 ans qu'on fait ça, quelques jours après la naissance du bébé, on prélève une goutte de sang dans le talon, et sur cette goutte de sang, on fait des tas de mesures, en fait, et si on arrive à faire ces mesures sur, évidemment, une minuscule goutte de sang, c'est qu'on est dans ce principe-là, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des complexes antigènes-anticorps, et il suffit, sur la courbe que vous avez vue tout à l'heure, vous avez un point que vous allez mettre, c'est-à-dire vous mettez un petit peu de marquage, et ça va vous donner la quantité, en fait, parce que c'est la dilution, quoi. Hein. Donc vous savez quelle quantité de radioactivité vous mettez, et puis cette radioactivité va se diluer par rapport à la quantité totale, et ça vous fait un point sur la courbe. Donc il y a des gens qui ont fait la courbe avant vous, et vous avez le point, et vous savez combien il y en a. Et donc on arrive comme ça à faire des tas de traitements. Vous savez qu'il y a des traitements qui se font dès la naissance, si on veut que les enfants soient normaux. Et évidemment, s'il fallait un litre de sang, le pauvre bébé, on ne lui ferait pas. Hein. Bon, ça marche parce qu'on prélève très très peu de sang. Donc ça aussi, c'est grâce à la radioactivité. Alors, des autres applications. J'en avais terminé avec la médecine. Alors, diverses industries, greffage, réticulation, ça c'est fabriquer de nouvelles molécules. L'industrie du bois, vous voyez, ce qu'on appelle les composés bois plastiques. Je vais vous donner des exemples à chaque fois. La gammagraphie, les sciences de la terre, vous voyez, application d'analyse et préservation du patrimoine culturel. Je vais vous détailler tout ça. Greffage et réticulation. Alors, par exemple, là aussi, quand je dis greffage et réticulation, ça veut dire qu'on fabrique des molécules, en général des molécules dans le domaine plastique, qui ont des propriétés tout à fait particulières, comme celle-ci, qui est de devenir infusible. C'est-à-dire que ces gaines que vous avez là, avec ce plastique tout à fait spécial, vous avez la société Acome, dans le sud de la Manche, qui fait ça, qui a quatre gros accélérateurs, d'ailleurs. Et tous les moteurs turbo, on équipe de câbles comme ça, parce qu'autrement, les câbles fondraient. Hein. Donc, alors c'est assez curieux, parce que je ne sais pas si c'est l'application du principe de précaution ou autre, mais du coup, tous les câbles le long des voies de TGV ont été faits aussi avec ces matériaux-là, alors que là, il n'y avait pas vraiment besoin. On dit, si, mais c'est quand même, ça porte un plus et tout. Alors, la société, elle n'a pas dit le contraire. Hein. D'un seul coup, c'était des milliers de kilomètres comme ça qu'ils avaient à faire. Bon, c'était quand même très, très intéressant. Donc, ça, c'est les câbles réticulés. Alors, vous avez d'autres, on peut donner d'autres exemples. C'est ce qu'on appelle, par exemple, l'effet mémoire. C'est-à-dire que vous prenez un matériau plastique. Et puis, il est comme ça, puis vous le tordez comme ça. Et lorsqu'il est tordu comme ça, vous le maintenez comme ça, et puis vous l'irradiez par des gamma ou des électrons. Vous arrêtez, il reste comme ça. Si vous le chauffez au-delà de sa température de fusion, il est devenu infusible. Donc il ne fond plus, mais il se souvient de sa forme et il se remet comme ça. Donc, on a des tas d'applications comme ça. Alors aujourd'hui, on ne fait plus comme ça, mais par exemple, dans vos emballages de revues, vous savez, quand ils sont hyper serrés, là, tout ça, ben, on utilise en fait cette propriété-là. C'est-à-dire qu'on glisse dans les énormes gaines comme ça vos magazines, par exemple. Et puis, ben, on les soude, et puis on chauffe légèrement. Et du coup, avant, ils n'étaient pas larges comme ça, ils étaient larges comme ça. Donc ils se souviennent de leur forme avant. Oui, mais entre-temps, vous avez glissé un magazine. Donc du coup, il s'écrase sur le magazine. Voilà. Donc vous penserez à ça quand vous déferez vos revues maintenant. Voilà. Je crois que ça se fait par la chimie classique maintenant. Mais à une époque, ça s'est fait par le rayonnement. Et c'est le début, c'était là. Hein, c'était fait par... Composé bois plastique. Alors, composé bois plastique, tout à l'heure, quand je vous ferai préservation du patrimoine naturel, consolidation des œuvres, c'est le même principe. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait ça pour des parquets, par exemple. On prend du bois. Alors, le problème du bois, c'est que voilà, il peut être attaqué par des insectes xylophages. Il peut être aussi attaqué par les petits talons aiguilles. C'est-à-dire, voilà, il peut se rayer, il peut. Bon. Donc, on prend du bois. On fait le vide dans le bois. On injecte une résine. Et on polymérise cette résine par le rayonnement. On a dû arrêter pour certains parce que vous vouliez planter un clou, le clou se tordait. Hein. Alors dis donc, là, trop, c'est trop quand même, faut pas exagérer. Hein. Voilà, et donc, alors on a fait ça. Ça, c'est le parquet du musée Stendhal à Grenoble. Je ne sais pas si vous êtes allé. Comme c'était pas loin du COA de Grenoble où on faisait ce genre de truc, du coup, ils avaient refait le parquet. Ça s'utilise pas beaucoup chez nous, mais ça s'utilise beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Hein. Vous avez des sols de gares, de musées, d'églises, etc., de centres commerciaux. S'ils aiment bien le bois, hein, c'est vrai, le bois, ça s'échaud, tout ça, mais bon, le problème, c'est que quand il y a beaucoup de monde, voilà, ça s'use vite. Eh bien, ils utilisent ces composés-là. Autres exemples, donc, gammagraphie, peinture luminescente, jauge de mesure, recherche de fuite, mesure des usures. Quelques exemples, donc. Alors, les contrôles de soudure par gammagraphie. Alors, c'est simple. Je ne sais pas si j'ai un schéma derrière. Non, je ne sais pas, mais c'est assez facile à comprendre. On le voit bien sur le schéma qui est ici. Vous voyez, vous avez une source qui envoie du rayonnement. Et ben, ce rayonnement, donc, il va traverser la matière. Donc, il va traverser le tuyau et la soudure, là où vous avez soudé les deux morceaux de tuyau. Bon, il va perdre une partie de son énergie. Qui est lié, évidemment, à la masse volumique du matériau qu'il va rencontrer et à son épaisseur. Bon. Et c'est pas la même chose, donc, si l'épaisseur varie et si le matériau varie. Et donc, l'image que vous allez avoir derrière en mettant un film, par exemple, pour voir le film impressionné par ce qui reste de rayonnement qui arrive, eh bien, vous allez voir si, effectivement, la soudure, elle a été bien faite, c'est-à-dire s'il n'y a pas la moindre petite fente. Parce que là, à ce moment-là, bah, le rayonnement, pouf, il serait passé, évidemment, sans rien voir du tout. Et donc, toute son énergie arriverait sur le film. Ou si, au contraire, donc, ça a été bien fait. Alors, c'est... l'image d'après, c'est dans le bâtiment réacteur d'un réacteur nucléaire. Là, on fait des milliers de contrôles comme ça, en particulier dans le bétonnage, parce qu'on ne fait pas que les contrôles de soudure. C'est comme ça aussi qu'on regarde que les fers à béton n'ont pas bougé au moment où on a coulé le béton. Recherche de fuite de gaz sur canalisation enterrée. Alors, vous avez peut-être vu ça, peut-être sans savoir. Moi, j'ai vu une fois faire. Donc, les employés qui se promenaient, comme ça, le long d'une route, avec un appareil, comme ça, et eh bien, ils cherchaient, en fait, une fuite de gaz. Alors, c'est facile à comprendre le principe. Vous voyez où est le point de fuite, là, ici. Bon. Vous injectez à un endroit, donc, évidemment, en amont de là où vous pensez qu'il y a la fuite, un petit peu, donc, de gaz radioactif. Et puis, bah, donc là, comme il y en a extrêmement peu, il va être absorbé par le sol. Donc là vous détectez rien du tout. Mais en revanche, là où effectivement il va pouvoir monter vers le sol, parce qu'il n'est plus à l'intérieur du tuyau et qu'il se rapproche du sol, bah, là, ça va couiner. Et puis, Il y a juste à percer là. Autrement, si vous ne pouvez pas, faut percer tout le long et puis chercher où c'est. Hein. Donc c'est quand même beaucoup plus élégant, quand même. Détection de niveau, même chose. Alors tout ça, évidemment, là, tout ce que je vous dis là, ça marche parce qu'on ne rend pas le composé ou ce qu'il y a dedans radioactif, hein, encore une fois. Hein. C'est-à-dire, c'est comme les photons de la lumière, quoi. Sauf que ces photons-là, ils arrivent à traverser une paroi opaque. Mais vous le voyez là, le principe est le même. Hein. C'est-à-dire que vous avez la source d'un côté, vous avez divers points, vous voulez savoir où est le niveau de remplissage. Donc, vous le voyez bien ici, au départ, vous avez évidemment la même énergie de photons, mais là où il va traverser, alors soit le gaz de la bouteille de gaz, soit dans les silos à grains, là où il va traverser le matériau, une partie de l'énergie va être absorbée, et donc le détecteur va compter moins qu'au-dessus du niveau, puisque là, il se contente évidemment, il y a un peu absorbé, mais c'était vrai aussi en bas, par les parois du silo ou de la bouteille, mais il n'y a plus rien au-dessus. Donc là évidemment, l'information est plus importante. Donc on voit comme ça où est le niveau. Et on fait défiler, par exemple, les bouteilles de gaz, on fait défiler ça à toute vitesse, hein, un peu comme quand on contrôle les bouteilles de vin, mais là, par un signal optique, hein, mais c'est le même principe. Peinture luminescente. Alors, il y a eu, à l'époque, les réveils Bayard, qui, si vous en avez encore, là, qui brillent la nuit, les vieux réveils de grand-père, c'est qu'on a déposé, à l'époque, c'était le radium qu'on déposait dessus. Et, donc, c'était fait, effectivement, dans les usines Bayard, c'est la foire de Bordeaux 1949, là, vous voyez. Et alors là, quand il a fallu démanteler tout ça, et avec les normes qu'on a aujourd'hui, de déchets radioactifs, on a des volumes absolument énormes qui restent même dans la terre, dans les murs, autour de cette installation. Alors, ça s'utilise encore aujourd'hui, mais on utilise du tritium qui a des énergies très faibles, c'est-à-dire que le tritium sort absolument pas, mais tous les appareils de navigation, par exemple, même pour les avions hautes, sont marqués au tritium. Hein. Pour qu'on puisse les voir, même s'il n'y a plus du tout de courant et tout, on arrive à détecter. Science de la Terre, datation, prospection minière, hydrologie. Alors, c'est là qu'on retrouve ma décroissance radioactive de tout à l'heure. Datation au carbone 14, les fresques de Lascaux d'ailleurs. Là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, alors, le principe est le suivant. Tout organisme vivant, un animal, une plante, un être humain, tant qu'il est vivant, il échange évidemment son gaz carbonique dont on parle toujours avec l'extérieur. Et dans ce gaz carbonique, il y a du carbone 14 de façon naturelle. Hein. La preuve, c'est puisque là, on est dans les fraises de Lascaux. Hein. Et donc, tant que l'organisme est vivant, arbre, plante, animal, etc., son activité en carbone 14, donc en grammes d'individu, si vous voulez, ou de matière, il est constant. Et le jour où il meurt, cet organisme, il n'y a plus d'échange avec l'extérieur. Donc il a emmagasiné une certaine quantité de carbone 14, et ce carbone 14 va disparaître avec la période qui est de 5730 ans. Autrement dit, si vous reprenez une momie ou du charbon de bois là, que vous trouvez à Lascaux. Et s'il reste la moitié de carbone 14 par rapport à un individu aujourd'hui, c'est qu'il a 5730 ans. Si vous trouvez le quart, c'est qu'il a 11400, etc. Et puis entre les deux, on sait faire le calcul aussi, hein, c'est de la décroissance exponentielle. Bon. Donc voilà le principe de cette datation, c'est ce que montrait, vous voyez, avec la vache, ici vous avez toute l'absorption, et voilà, bon. Et donc, le principe de la datation carbone 14, c'est là. Alors, bien sûr, on prend carbone 14, pourquoi? Parce que c'est l'un de nos deux constituants radioactifs essentiels, hein, lui et le potassium 40, et parce que 5730 ans, si vous voulez, ça va correspondre à partir de deux périodes, en gros, à des activités qui peuvent être des activités humaines, 10 000 ans, et puis jusqu'à 40 000 ans, mais là, on n'a pas d'archives, quoi. Hein. Bon. Donc, on n'a pas moyen de savoir quand est-ce que ça a été fait. Donc, on utilise cette méthode. Il y en a d'autres, un peu plus sophistiquées. Voilà, celle-là, c'est la plus simple. Prospection minière. Alors, là, évidemment, c'est plus ou moins sophistiqué aussi, c'est-à-dire que, d'abord, il y a la prospection classique que j'ai dû mettre derrière, par exemple, quand vous recherchez de l'uranium. Bon, alors là, c'est facile, hein. Ça va même se faire par hélicoptère, vous voyez. Vous avez la sonde, et puis, vous avez les rayonnements émis par ces matériaux radioactifs-là. Donc, vous pouvez voir, en fonction de ce que vous avez comme renseignement, si ça va être une mine qui va être riche ou non, si ça vaut le coup d'y aller ou pas. Mais, je reviens en arrière, vous pouvez aussi le faire pour d'autres éléments qui ne sont pas des éléments radioactifs. Savoir, par exemple, tout ce qu'il y a le long de ce carottage. Donc, vous envoyez une source de rayons gamma ou des neutrons, vous le voyez ici, et donc, ils vont traverser la matière autour, donc ils vont être plus ou moins absorbés. Cette absorption, elle va dépendre de la masse volumique, de la densité du matériau qu'ils rencontrent. Et quand ils vont revenir sur la sonde qui est au-dessus, vous voyez qu'on met un écran en neutrons ou un écran en plomb là pour éviter que ça revienne directement. Donc si ça revient, c'est forcément que ça a été sur les côtés et que ça revient après. Eh bien, l'information que ça donne vous permet de dire, tiens, ça, c'est tel composé, c'est telle roche, etc. Et vous faites comme ça tout le long du carottage, vous avez toute l'identité. À recherche des courants d'envasement. Alors là aussi, quel est le principe? Donc quand vous avez un port, un grand port, ça c'est Singapour, parce que justement, le CEA, France, dont nous les Français, on avait répondu à cet appel d'offres, et on a répondu. Donc le port s'envase, donc c'est embêtant. Donc vous payez une société de dragage qui va donc draguer dans le port, mais et puis après, qui va aller rejeter quelque part au large. Alors vous voyez, vous avez deux solutions. Vous avez le point A ou le point B. Bon, si vous le mettez au point A, c'est très juteux pour la compagnie de dragage parce que ça va vite revenir dans le port, hein, et c'est pas bon pour la société portuaire. En revanche, si vous mettez au point B, alors là, c'est bon pour le port parce que ça va partir vers le large. Et alors, il y avait des discussions absolument énormes entre donc ces sociétés de dragage et puis le port parce qu'ils s'étaient fait avoir une ou deux fois. Et alors effectivement, le courant de surface, en réalité, le courant de surface montrait que là où les sociétés allaient éjecter, le courant de surface, il emportait vers le large. Et le problème, c'est qu'il y avait un courant de fond, et que personne ne connaissait, et qui ramenait, effectivement. Et alors ça, alors vous pouvez le faire avec une centaine de galets que vous marquez, ou quelques litres de vase, ou quelques kilos de sable, donc marqués par la radioactivité, et puis après, c'est tout bête. Vous allez à un point donné, vous attendez un peu, et puis vous suivez le parcours des sédiments pour voir où est-ce qu'ils vont. Et donc, le CEA avait montré ce courant de fond, et donc le port avait raison, effectivement, par rapport aux autres sociétés. Ce n'était pas le courant, évidemment, de surface qui était important. Les fuites sur barrage, bon, ça, c'est mal passé, hein, que vous connaissez. Malheureusement, c'est un grave, très très grave accident qui est arrivé. Alors, on contrôle évidemment ce qu'on appelle les fuites sur barrage, c'est-à-dire qu'en continu, si vous voulez, en amont du barrage, on met un petit peu de radioactivité dans le sol, tout en bas, et en aval du barrage, dans les infiltrations, parce qu'il y a toujours des infiltrations quand même, on contrôle que cette radioactivité n'arrive pas, ou en tout cas n'arrive pas trop vite, ou en tout cas n'arrive pas de plus en plus vite. Voilà. Mais de toute façon, tous les 10 ans, vous savez, maintenant, on vide des barrages. Hein. On a fait Tignes il n'y a pas très très longtemps, là, où les gens sont retournés. Les traceurs en agronomie, c'est le même principe. Là, on le fait avec de l'azote, évidemment. Et on regarde les engrais, si effectivement donc ils sont efficaces, à quelle vitesse ils sont absorbés par l'arbre, si effectivement ils sont absorbés. C'est très élégant, si vous voulez, comme méthode. Voilà. Encore une fois, on met très très peu de radioactivité avec des périodes très courtes, c'est-à-dire que ça disparaît très vite. Cet azote, il devient de l'azote normal après, hein, donc il n'y a pas de souci. L'analyse. Alors, analyse par activation, analyse par dilution isotopique. Alors, la dilution isotopique, vous voyez, c'est facile à comprendre. C'est le même principe que les entomologistes, si vous voulez. Vous prenez une île, donc c'est un système fermé, et puis vous voulez compter combien il y a de papillons sur cette île. Bon, vous en attrapez un millier, vous les marquez, par exemple, peignez la queue en vert, par exemple, et puis vous les relâchez. Vous attendez que tout ça se homogénise bien sur l'île, et puis vous en reprélevez 1000. Et sur les 1000, par exemple, il y en a 17 qui ont la queue verte. Bon. Une simple règle de 3, vous avez une idée quand même de la population que vous avez là. Eh bien là, le principe est le même, c'est-à-dire que vous avez par exemple des nappes souterraines, vous avez une énorme poche d'eau souterraine, vous voulez connaître le volume de la poche souterraine, vous injectez un tout petit peu de ce qui s'appelle HTO, c'est-à-dire de l'eau tritiée. Vous voyez la différence avec H2O, c'est que un des H, c'est le fameux isotope tritium radioactif de tout à l'heure, hein, qu'on avait vu. Donc vous remplacez un H stable par un H radioactif. Donc c'est de l'eau. Hein. Sauf que, voilà, voilà, tritium dit radioactif, qui dit radioactif dit émetteur d'un rayonnement. Donc vous injectez ça, et puis bah, vous attendez que ça s'homogénise, et puis bah, vous reprélevez un volume, vous regardez l'activité dans ce volume, et vous avez le volume de la poche. L'analyse par activation neutronique. Alors là, c'est pour détecter, vous voyez, des impuretés qui appelées X là dans un matériau donné. Donc, qu'est-ce que vous faites dans un réacteur à neutrons comme ce qu'on trouve à Saclay par exemple? Eh bien, vous mettez donc votre matrice pour contrôler les impuretés. Vos impuretés sous l'impact des neutrons. Bon, par exemple, ils vont absorber un neutron. S'ils absorbent un neutron, cette impureté, elle est testable, c'est-à-dire vous ne pouvez pas la voir dans le matériau. Sauf que là, maintenant, elle est devenue radioactive, et donc elle va émettre un rayonnement. Un rayonnement, d'ailleurs, que vous connaissez bien, puisque vous savez quel noyau va être fabriqué, donc vous connaissez bien l'identité du rayonnement. Donc vous pouvez le contrôler, et à partir de là, bah, vous savez combien il y a d'impuretés dans ce matériau. Préservation du patrimoine culturel. Destruction des parasites, consolidation des œuvres. Alors ça, c'est un programme, vous voyez, qui s'appelle Nucléar, qui existe toujours, d'ailleurs, à Grenoble, au CEA de Grenoble. Alors, le principe, c'est la même chose que mes parquets de tout à l'heure, en particulier avec ce qu'on appelle les bois gorgés d'eau. Les bois gorgés d'eau, si vous les sortez de l'eau, ben, ils s'effritent, c'est terminé, ils disparaissent, hein. Donc là, l'instant où on les sort de l'eau, on fait le vide dedans, on injecte une résine, on polymérise cette résine par le rayonnement. Et ça devient aussi dur que les parquets de tout à l'heure. On peut faire ça, vous voyez, avec des statues, etc. Alors, ça marche comment? Vous le voyez sur le schéma du haut. Je ne sais pas si j'ai... Voilà, si, ben j'ai plus gros là. Voilà. Alors, le schéma que vous voyez ici, plutôt, on va revenir sur le vrai. Vous avez donc des statues là, en bois, hein, ou en bois ou en pierre, bon. On a injecté les résines dedans. Et ce que vous voyez derrière, là, les lignes comme ça, qui sont plus ou moins régulières, eh bien, c'est du cobalt 60, c'est-à-dire c'est un émetteur de rayonnement gamma, très puissant. Et le plus ou moins serré, c'est en fonction de l'effet que vous voulez faire. Hein. Donc il y a des endroits où vous voulez qu'il y ait beaucoup de rayons, puis un petit peu moins. Donc vous voyez, là, c'est calculé à l'avance, c'est passé. Bon. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez. Ici, dans le logement, vous voyez ici, voilà. Alors, sauf que, donc, votre source, évidemment, de cobalt 60, tant qu'elle ne sert pas, elle est dans une pile piscine. Donc là, l'eau arrête tous les rayonnements. On a calculé la quantité d'eau qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas un rayonnement qui passe. Et puis, bah, quand vous voulez faire, vous avez tout préparé en haut, bah, tout le monde s'en va, évidemment, de la casemate. On ferme tout et hop, la source vient et on laisse le temps qu'il faut. Hein, pour consolider, c'est-à-dire polymériser la résine. Alors voilà les installations. Alors voilà un certain nombre d'objets. Je ne sais pas si j'ai mis la pompe. Non, Ramsès, je vous en parlais après. Voilà, des objets qui auraient disparu autrement. Hein. Alors Ramsès II. Alors, vous savez sans doute que donc on a traité Ramsès II. Alors Ramsès II, il avait vécu très très vieux, hein, donc ça lui a permis d'avoir, je ne sais plus, 120 ou 130 enfants, quelque chose comme ça. Et il est mort à 94 ou 95 ans. Et en fait, sa momie, alors, était infestée de bactéries. Ce n'était pas du tout le procédé de momification qui était en cause. C'est le fait que sa tombe avait été profanée, pillée, évidemment, restée à l'air, du coup. Et puis, voilà, à partir de là, contamination bactériologique. Et donc, il y avait une proposition de la France de traiter... je ne sais pas si je l'ai plus loin, Ramsès, non. On le voit bien, là. Il avait encore pas mal de cheveux, vous voyez. Et du coup, alors les Égyptiens avaient demandé, évidemment, deux choses. La plus importante, c'était que il reste tel qu'il était, c'est-à-dire qu'il ne perde pas le moins de cheveux par le traitement. Alors, on a fait des essais sur des momies qui étaient moins glorieuses que Ramsès, mais donc on a montré qu'effectivement, ça allait. Et qu'il soit reçu comme un chef d'État. Et d'où le tapis rouge à Orly, là. Et alors, pour la petite anecdote, donc quand j'étais au CNAM, et au temps où elle était professeure aussi, ma collègue qui occupait le bureau juste à côté du mien, c'était Madame Saunier CIT, où elle avait terminé sa carrière comme professeure au Conservatoire des Arts Métiers. On ne pouvait pas la remettre à l'université parce qu'on disait « va se faire lyncher ». Mais au CNAM, c'est les cours du soir, c'est des élèves tout gentils, des techniciens et tout ça, donc ils ne vont pas l'embêter. Et donc elle était, et des fois le soir, quand il était un peu tard, ça arrive dans tous les métiers, on se prenait un whisky tous les deux, on racontait notre vie, quoi. Et elle avait à cette époque-là une vie plus intéressante que la mienne, quand même. Et je lui raconte l'histoire de Ramsès. Je lui dis, et vous rendez compte? On a envoyé un ministre faire un discours, elle me dit, mais c'est moi, Fausse. C'est moi. C'est moi qui ai dit à les collègues, ils voulaient pas y aller. Et donc, c'est moi qui suis allé, alors effectivement... j'étais devant une caisse, il y a marqué haut, bas, fragile et tout, et Majesté, la France est heureuse de vous recevoir sur son sol, etc. Et les collègues, ils sont foutus de moi, ils ont appelé ça le discours à la caisse. Et donc, mais effectivement, il avait été reçu avec tous les honneurs d'un chef d'État. Et en 1977, le 24 mai 77, je crois, à Saclay, donc, où il est arrivé avec les motards et tout, donc grand cortège. On l'a mis dans un peu dans le comme vous avez vu tout à l'heure, hein, l'équivalent. Il y a la même pile piscine avec le cobalt à Saclay que ce que vous avez vu là à Grenoble. Et donc, on l'a désinfecté de ces 60 et quelques sortes de champignons. Alors, on l'a étudié un petit peu aussi. On en a profité. Et alors, on s'est aperçu de deux choses. D'abord, que sur la fin de sa vie, il était atteint de spondylarthrose, qui est une maladie qui solidifie les os du squelette, toute la colonne vertébrale, ce qui, tant que vous êtes vivant, fait énormément souffrir, explique peut-être que sur la fin de sa vie, en dehors du fait qu'il devenait très vieux, il n'était vraiment plus capable de diriger son pays. Donc c'est une mauvaise chose quand vous êtes vivant, sur la fin de vie, mais c'est une bonne chose si vous devez finir comme momie, quoi. Parce que du coup, vous êtes beaucoup plus solide. Hein, vous résistez mieux, quoi. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il était blond aux yeux bleus, comme moi. Ce qui n'est pas l'idée qu'on se fait quand même d'un Égyptien moyen, quoi. Et on s'est demandé si... vous savez, il y a des théories qui disaient qu'effectivement, c'était des gens qui étaient arrivés du Nord, qui étaient arrivés chez les Égyptiens, qui n'avaient jamais vu de blond aux yeux bleus. Et du coup, ils avaient pris pour des dieux. Alors les autres, vous pensez que c'est... Ben oui, vous avez bien raison, donc vous allez bosser pour nous, et puis voilà. Et ils se mariaient entre eux, justement, pour rester. Et du coup, ils ont périclité comme ça. Hein. Mais c'est vrai que lui, il était blond aux yeux bleus. Radiotraitement biologique. Alors, radiostérilisation, matériel chirurgical ou autre, traitement des os, conservation des dents alimentaires. Je terminerai sur la conservation des dents alimentaires. Il faut que je m'arrête quand, à quelle heure? Il est 8h moins le quart.
C'est fini, là, c'est bon. 8h.
Ah, 8h, ce sera fini. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le matériel chirurgical est traité par le rayonnement. C'est le meilleur assainissement possible. L'oxyde d'éthylène, c'est terminé, c'est ce qu'on utilisait avant. L'avantage, si vous voulez, c'est que je dois avoir des photos, je ne sais pas si elles sont là ou si elles sont... Oui, voilà, elles sont là. Vous traitez dans un carton fermé tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que quand vous visitez ce genre d'installation, ben vous avez des cartons, il y a le nom de l'opération, si vous voulez. C'est-à-dire que le chirurgien va tout trouver dedans. Hein, il va trouver tous les linges qu'il faut, ses bistouris, ses gants, ses trucs. Tout est dedans. Et on va stériliser le carton entier, on n'a pas besoin de l'ouvrir. Parce que c'est, alors vous voyez, ça part comme ça, à l'intérieur, voilà, de la casemate. Donc vous avez les murs de béton qu'il faut, avec les tournants qu'il faut pour qu'évidemment il n'y ait pas de rayonnement qui revienne devant ici. Tout là-bas, là-haut, il y a l'irradiation qui se fait dans le carton, et les cartons reviennent de l'autre côté et sont rechargés. Hein. Donc, même aujourd'hui, on arrive à faire même ces manipulations-là avec des appareils. Donc, il n'y a même plus de manipulation humaine comme on le voit ici. Donc, tout le matériel est stérilisé comme ça, aujourd'hui. Tout le matériel chirurgical. Alors, vous avez aussi, donc, sur certains insectes, en particulier, donc, l'éradication de la mouche tsetse, on fait aussi par le rayonnement. Vous voyez, ça, en Afrique, c'est toute la zone où sévit cette mouche, mais d'ailleurs, qui est pour rien, hein, parce que elle véhicule, en fait, le parasite qui est responsable de la maladie du sommeil. Hein. Mais il n'y a qu'elle qui le véhicule. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on élève des millions de mâles en captivité et on stérilise tous ces mâles. Et après, on les rejette dans la nature. Alors, ça marche parce que la femelle mouche tsetse n'a qu'une seule relation sexuelle dans sa vie. Ça lui suffit. Donc, si elle l'a eu avec un mâle qui est stérile, bah, c'est terminé. Elle est contente. Elle n'aura jamais de descendance. Et si vous faites ça, évidemment, sur des millions d'individus sans arrêt, etc., pendant plusieurs années, eh bien, vous finissez par voir la population non pas disparaître complètement. C'est pas bon non plus de dire qu'on fait disparaître une espèce, évidemment, mais au moins diminuer, quoi. Voilà. Alors, vous avez aussi, vous voyez, pour l'hygiène, c'est quand même assez curieux de voir une époque où, dès qu'on parle de nucléaire, d'irradiation, de machin, tout le monde s'excite. Je lis ça dans l'Express, 1er février 2012, vous voyez, c'est pas si vieux ça. Voilà, chouette, hygiène, les biberons conçus par ionisation n'ont pas besoin d'être stérilisés. Et en bas, vous voyez marqué « ionisation par des rayons gamma ». Voilà. Donc, il n'y a plus besoin de les stériliser. Et on en fait un plus et de façon positive. Traitement des eaux, assainissement des boues. Donc ça, c'est la même chose. Vous avez compris que c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on traite... Alors, vous avez des villes qui traitent des grandes villes, hein, comme Munich, par exemple, qui traitent effectivement leurs eaux comme ça. C'est-à-dire qu'on fait passer... Sur les tuyaux, on met une espèce de couche de cobalt 60, donc rayonnement, et on fait passer à l'intérieur. Alors, quand c'est des boues, ben, c'est pour supprimer des germes ou autres qui pourraient, après, quand vous allez pendre ça sur les... Alors, ça supprime évidemment les parasites, tout ce qu'il peut y avoir dedans, et puis, ben, ça fait de l'antigermination. Donc, vous pouvez, après, épandre ces boues dans les champs. Bon, en traitement des eaux, ben, c'est la même chose, c'est de l'assainissement. Hein. Et on en arrive, c'est mon dernier paragraphe sur la conservation des denrées alimentaires. Alors, la conservation des denrées alimentaires, ça a eu une mode dans les années 85-90. Puis ça a disparu. Hein. C'est comme toutes les modes, on ne sait pas pourquoi ça apparaît, pourquoi ça disparaît. Et donc, à ce moment-là, j'ai servi de conseiller technique au ministre de l'Agriculture de l'époque, qui était Guillaume. Vous vous souvenez peut-être que c'est un ancien patron syndical. Parce que on voulait mettre des installations partout. Et j'ai été plutôt un frein. Parce que, vous allez voir, on peut traiter des centaines, milliers de tonnes par an. C'était pas la peine de mettre des installations partout sous prétexte que ça devenait la mode. Donc j'ai plutôt freiné qu'autre chose. Donc c'est une histoire que j'ai bien connue. Ça reviendrait peut-être un jour parce que c'est le meilleur procédé de conservation. Alors à l'époque, j'ai fait des tas de conférences là-dessus, avec des opposants, vous doutez, dans la salle et tout. Et ils me disaient, mais monsieur, moi, je vais pêcher mon poisson, je mange les légumes dans mon jardin. J'ai dit, bah oui, ok, moi, pas de problème. C'est ce qu'il faut faire. Mais est-ce que tout le monde va pêcher ce poisson ou est-ce que tout le monde mange les légumes de son jardin? Bon, je dis, si on doit utiliser un traitement, si on est obligé de... Si on n'a pas besoin, ok, bah c'est bon. Mais si on est obligé... Alors, autant utiliser le meilleur. C'est quoi le meilleur ? Ben, c'est celui qui va introduire le moins de composés étrangers, qui va détruire le moins les éléments nutritifs, etc. C'est ça le meilleur procédé. Mais s'ils ne font pas, il faut surtout rien utiliser du tout. Hein ? Et vous verrez que ça se compare très très bien. C'est ce que j'ai mis ici. Vous voyez, quitte à utiliser un procédé de conservation pour les denrées alimentaires, autant utiliser le meilleur, celui qui affecte le moins les éléments nutritifs, qui introduit le moins d'éléments étrangers. Et en plus, l'absence d'élévation de température au cours du traitement n'affecte pas les qualités organoleptiques des aliments. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'introduit pas non plus, ça ne induit pas de radioactivité dans l'aliment. J'avais raconté ça à des journalistes une fois, ils disent « Oui, mais alors mon beefsteak que je vais mettre, il va être radioactif. » Il n'est pas plus radioactif que lorsque vous cuisez votre beefsteak sur une plaque électrique, vous ne prenez pas de jus dans les pattes quand vous le sortez de la poêle. Bon, ben là, c'est pareil. Hein. Dernier petit chapitre. Donc, un procédé de conservation, mais surtout un procédé d'assainissement qui est comparable à la pasteurisation. Alors, vous voyez, c'est assez vieux, hein, fin des années 50, utilisé au début dans les missions spatiales de la NASA. On a beaucoup parlé de ce qu'emmenait notre spationaute là-haut français, et je suis sûr que tout a été irradié, hein, utilisé, je vous disais tout à l'heure, de la stérilisation du matériel médical, etc. Alors, évidemment, pourquoi ioniser ? Ben, vous savez, il y a plusieurs milliards de cas de maladies d'origine alimentaire enregistrés chaque année. Ça, c'est une chose que j'ai appris justement quand j'ai été au ministère. Et qu'on ne sait pas, parce que vous avez les morts médiatiques et puis vous avez d'autres, c'est malheureux de dire ça, hein, mais le nombre de décès par intoxication alimentaire que j'ai appris pendant les 2-3 années, là, mais c'est presque tous les jours. C'est fou. C'est incroyable. Moi, je débarquais complètement, quoi. Alors, les inspecteurs, ils disaient, monsieur, mais c'est comme ça, quoi. Je dis, attendez, quand même. Ben, oui, il y en a, oui, bon. C'est affolant, quoi. Hein. Bon. On a eu un cas d'un monsieur qui était dans le coma. Donc, l'inspecteur m'avait raconté ça. On revenait tous les deux en train. Et, oh, c'est une parenthèse, j'espère que je vais pas dépasser le temps, mais j'en ai pas bon temps. Et il était perturbé parce que, alors, on lui avait demandé, fait l'enquête avec la famille. Bon, et il était le seul à avoir mangé des sardines. Donc, c'est des sardines qui venaient du Maroc. Et tout de suite, ça y est, il dit, on va fermer l'usine au Maroc. Il dit, moi, je l'ai inspectée, l'usine au Maroc. Elle est vachement propre. Et je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Alors, on a poussé un petit peu plus loin. Et on s'est aperçu que, non seulement il avait été le seul à manger des sardines ce soir-là, mais il était le seul aussi à boire l'eau de son puits. Parce que son père, il buvait l'eau du puits, parce que son grand-père, il buvait l'eau du puits. Il dit, on a fait analyser l'eau, on a trouvé quelques molécules d'eau parmi les staphylocoques. Hein. Et il dit, on allait fermer une usine. Bon. Parce que c'est vrai, les gens, si vous voulez, quand on avait fait des enquêtes aussi sur les procédés de conservation, les conserves familiales, mais les conserves que je fais, mais c'est ce qu'il y a de plus sûr. Alors le gars dit, mais il n'y a pas photo, quoi, entre des conserves industrielles avec tous les prix que je comprends, et puis les gens qui font leurs conserves chez eux où il n'y a personne qui contrôle, il n'y a pas photo. Les plus sûrs, c'est les industriels, et c'est pas ce qu'on fait chez soi. Mais du moment qu'on le fait chez soi, forcément, c'est beaucoup plus sûr qu'autre chose. C'était assez intéressant. Donc souffrance humaine, perte économique, évidemment, et vous avez les personnes à risque. Je vais aller un peu plus vite parce que, donc voilà, le rayonnement, on envoie du rayonnement. Vous avez une jolie source de cobalt 60. Ça, c'est un effet qui s'appelle l'effet Cherenkov, qui est très très joli. Je passe tout ça, mais voilà, on insiste toujours là-dessus. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. L'énergie des rayonnements ionisants doit être suffisamment importante pour posséder un pouvoir de pénétration raisonnable, mais doit rester en dessous des limites d'activation, c'est-à-dire éviter d'induire dans le matériau rencontré le phénomène de radioactivité. Et vous avez l'énergie maximale autorisée ici. Le cobalt 60, c'est 1,17 et 1,33. Ça peut paraître 1,34. 1,33 maxi. Donc, vous voyez, on est loin de 10. Hein. C'est-à-dire qu'on ne verra jamais ça sur... À chaque fois, je mets un dessin de plantu. J'aime bien mettre un dessin de plantu. C'est à l'époque qu'on changeait d'unité et tout. Alors. Donc, voilà, ça crée effectivement des gerbes d'électrons dans le matériau, et ça peut donc assainir. Donc vous voyez, effet sur les protéines négligeables, sur les glucides négligeables, sur les lipides, c'est-à-dire les matières grasses un petit peu plus significatifs, à cause de l'action de l'oxygène et de ce qu'on appelle les produits de radiolyse. Alors ça a l'air d'être un mot un peu barbare, les produits de radiolyse, mais si je vous dis produits de thermolyse, c'est-à-dire les produits que je récupère par chaleur, quand je fais de la chaleur, donc quand je fais de la pasteurisation, quand je fais mes conserves chez moi, eh bien c'est les mêmes produits, si vous voulez. Sauf qu'on en produit moins, là, que lorsqu'on chauffe, quoi. L'ionisation, vous le voyez, donc effet chimique réduit, ne modifie pas la qualité nutritionnelle, ne provoque pas l'apparition de produits toxiques ou cancérigènes. Et toutefois, susceptible d'altérer les propriétés organoleptiques de certaines catégories de produits alimentaires riches en graisse. Bon, si on voulait irradier les foie gras, le premier qui s'y opposerait, c'est moi, par exemple. Bon. Je m'étais opposé au camembert aussi, vous voulez irradier les camemberts, à Isigny. Je dis, bon, faut vous m'expliquer quand même, parce que moi je suis normand, je mange des camemberts, on n'a pas besoin. Oui, mais si, mais vous comprenez, c'est les camemberts qu'on exporte aux États-Unis et que donc ils ont vu qu'il y avait telle souche, je sais pas quoi, qui est absolument pas dangereuse, qui est normale, c'est une souche du camembert, mais ils en veulent pas. Donc on a calculé, on savait pour la tuer de ça. Alors j'ai dit, si c'est pour les Américains, ils vont manger leur camembert en buvant du Coca-Cola. Alors, d'accord, mais seulement les Américains. Aucun effet biologique défavorable, vous voyez, consécutif à l'irradiation, ce qu'on pourrait appeler la radiomutagénèse, n'a jamais été mis en évidence. Ni la formation de souches résistantes aux antibiotiques, ni l'acquisition ou augmentation de pathogénicité chez les bactéries ou virulence chez les virus, évidemment. Hein. Bon, je vais passer un petit peu ça, je vais vous montrer un peu des exemples. Alors, vous voyez, en Amérique, c'est très, très développé. Hein. On fait de la pub. Radurisation, c'est le mot qu'on dit, ça veut dire donc qu'on a traité par irradiation, introduit de nouvelles dimensions de pureté et de santé dans l'industrie alimentaire. Regardez la petite fille, comme elle est contente de manger ces éléments irradiés là. Donc ça, c'est les termes. Je vais vous montrer plutôt les... Alors voilà, Alors vous devez avoir un petit logo, normalement. Alors le logo, vous pouvez le chercher, hein, parce que même quand on le fait, maintenant on le met sur le grand carton et puis on ne le met pas sur ce qu'il y a dedans. Bon, mais donc des fraises, des asperges. Ah ouais, mon fameux camembert, le camembert irradié, voilà, cœur cotentin, il s'appelait. Et vous voyez, alors, il y avait une explication dedans. Alors l'explication, elle reste très... l'ionisation d'un produit résulte de son exposition pendant un temps limité au rayonnement gamma. Ces ondes de photons, particules de lumière, vous voyez, permettent de réduire la population bactérienne du fromage. Bon, et on pouvait répondre, vous voyez, j'ai acheté ce camembert-là, je l'ai trouvé excellent, bon, etc. Alors, on avait fait aussi une enquête c'était le Auchan de Lyon. Et c'était très intéressant, ça. Donc, il y avait, vous voyez, des grandes affiches. Alors, ils vendaient deux fois plus cher que les autres. Même moi, j'en aurais pas acheté, parce que quand même, deux fois plus cher. Bon. Mais on m'avait expliqué, on m'avait dit, du moment qu'on dit qu'il y a un procédé en plus, qu'on apporte un plus, il faut que ce soit plus cher. Autrement, les gens ne comprennent pas. Bon. Du moins, je comprendrais très bien de ne pas payer plus cher, mais bon. Et donc, il y avait des hôtesses qui étaient là, qui, quand les gens prenaient, leur demandaient. Et c'est curieux, la réponse que faisaient les gens, c'était une réponse à laquelle personne n'avait pensé. C'est-à-dire, les gens, ils prenaient, ils voyaient même pas que c'était plus cher tout ça, quoi. Ils prenaient, hop, ils mettaient dans le caddie, ils partaient, puis là, ah, madame, pourquoi avez-vous acheté une fraise? Et la réponse qu'ils faisaient toujours, alors je dis madame, c'est pas être monsieur, hein, c'était parce qu'elles étaient belles et qu'elles sentaient bon. Toujours. Et ça, on n'y avait pas pensé du tout. On pensait qu'ils allaient nous dire, ah ben, parce qu'on a vu qu'on allait pouvoir les garder 15 jours, non. Et en fait, c'était vrai, parce que, là, elles étaient cueillies à maturité, comme vous les cueillez dans votre jardin, si vous en avez. Parce que d'habitude, on les cueille avant, parce qu'évidemment, on veut gagner un peu de temps jusqu'au jour où elles vont être mises sur les rayons. Là, comme on augmente la durée de conservation, elles étaient cueillies à maturité, donc elles étaient belles, et elles sentaient bon, c'est vrai. Mais nous, on n'avait pas pensé à ça du tout. Hein. Et donc, les gens, ils en achetaient pour ça. Ça a très bien marché. Les cuisses de grenouille, moi je suis un amateur de cuisses de grenouille. Bon, alors ceux-là, elles sont importées, donc elles n'étaient pas très bonnes, je les ai mangées quand même, mais vous voyez, jusqu'où le conférencier pousse le sacrifice quand même, hein, jusqu'à acheter des cuisses de grenouille, parce que chez Picard, d'un seul coup, ils voient produits d'importation traités par ionisation. Voilà, donc si vous y allez un jour, vous voyez, les cuisses de grenouille, c'est écrit, hein, pas de problème. Alors il y a beaucoup de pays, vous voyez, quand même, qui font ça, malgré tout. En tête, alors vous avez en tête les pays exportateurs, hein, Afrique du Sud, Israël, Thaïlande, Chili, Brésil, etc. Vous avez la France qui est au 9e rang, la 13e, Russie, c'est en vert parce que c'était le premier pays où on l'a fait, Mais puis j'en avais d'autres. Vous voyez les pubs, voilà, aux États-Unis. Regardez quand même, le gars, il fait une pub terrible, quoi. On peut pas dire qu'il cache le traitement. Et c'est pas ionisation, c'est bien marqué irradiation, hein, pour fraîcheur et santé, hein. Et derrière, vous voyez, voilà, bon, Jim Corrigan, il s'appelle, ce brave homme, dans l'Illinois, on a même l'adresse, vous voyez. Alors, il fait de l'anglais comme j'ai jamais osé faire, moi, parce que, vous voyez, il maintient gros dollar et gros pourcentage. J'aurais jamais osé marquer dans une copie, moi, gros dollar et gros pourcentage. Et donc, c'est ça qui les intéresse, hein, gros dollar et gros pourcentage, bon, voilà. Alors, exemple d'irradiation, vous voyez, du pain, alors, je vous dis pas lequel a été irradié, lequel n'a pas été irradié, là, c'est après... Après deux mois, bon, il y en a un, même avec beaucoup de confiture, franchement, c'est pas appétissant, quoi. Les pommes de terre, hein. Alors, malgré tout, on n'utilise pas ça pour les pommes de terre. Et on continue à utiliser la chimie. Pourquoi ? Ben parce que c'est trop cher, ça. Voilà. C'est très efficace, mais c'est relativement cher. Hein. À l'époque, quand on me demandait, en francs, je disais, c'est un franc du kilo, quoi. Donc, je dirais 15 centimes du kilo irradié aujourd'hui, quoi. Le prix des pains au chocolat de Copé, là. La chimie, c'est moins cher, mais ça, c'est un résidu chimique, quoi. Oui, pareil, les fraises non irradiées, irradiées, alors là, c'est après 15 jours. Bon. Donc, on ne triche pas, il y en a une qui n'a pas bougé, malgré tout, hein, mais les autres, bon. Alors, voilà les installations. Vous retrouvez la même chose que tout à l'heure, hein, avec la stérilisation du matériel chirurgical. Donc là, c'est des palettes entières qu'on met. Hein, oui. Une fois, on me demandait une installation, donc les gens étaient venus de la région, ils m'avaient dit... qu'est-ce qu'on va avoir comme nuisance ? Alors, ils pensaient radioactivité, etc. Je leur dis, à la rigueur, la nuisance qu'on peut avoir, c'est que vous allez avoir un semi-remorque tous les jours sur les routes. Hein ? Parce que c'est à peu près la capacité du truc, quoi. Bon. Après, c'est les installations. Alors, l'installation n'est pas monstrueuse en soi. Hein, ça, c'est Amphitryon, c'est en Vendée, c'est à Pouzauges. Parce que tout ça, là, derrière, c'est le stockage. Hein, c'est un hall de stockage, parce qu'il faut énormément. Hein. Ça débite très, très, très vite. Vous voyez ce que ça donne à l'intérieur, là. Voilà, les palettes entières. Hein. Alors, vous rentrez là-dedans, ça sent le poivre et tout, parce qu'on traite tous les... Aujourd'hui, toutes les épices sont traitées, parce que c'est un vrai bouillon de culture, hein, les épices. Donc, il vaut mieux que ce soit traité. Hein. Ça, c'est la belle source tout à l'heure. Alors, on peut aussi utiliser les électrons. Là, en revanche, évidemment, c'est beaucoup plus... L'épaisseur est moins grande, parce que la pénétration est moins grande par le faisceau d'électrons. Alors, voilà, ça, c'est en Bretagne, en fait. Donc, c'est des pains de viande qui sont irradiés. Bon, ça, c'est une installation. Alors, des fois, on retourne le carton. Donc, c'est une machine qui fait ça, parce qu'on le fait passer une fois. Donc, il se fait irradier par le dessus, à peu près jusqu'à la moitié. Donc, on le retourne, on le fait repasser, ça irradie l'autre moitié. Voilà, les installations en France. Elles tournent toujours, d'ailleurs, ces installations. Il y en a quand même pas mal. Alors on met évidemment, vous voyez, un petit, faut donner la dose, montrer qu'on n'a pas dépassé les doses, etc. Donc vous avez ce qu'on appelle des dosimètres qu'on met sur les cartons, ce qu'on colle. Hein. C'est des petites bandes, et puis bah, ça change de couleur. Et en fonction, vous voyez, des doses, là vous avez 10-25 kilogrammes, ce qui est assez fort. Là vous avez simplement 2-10, donc vous avez des gammes comme ça. En fonction de... Voilà. 20 heures tout juste. Merci pour votre attention.
Merci. S'il y a des amateurs pour poser des questions, Oui.
Merci. Un peu court le film. Oui, vous avez dit plusieurs fois que pour des méthodes de datation ou de traitement par irradiation.
Il ne marche pas là, le micro.
Sur
Rhône. Ah,
ah voilà, mettre plus près.
Oui, non, je recommence alors.
Oui.
Donc, vous avez dit qu'il ne fallait pas dépasser un certain seuil d'irradiation pour éviter de rendre radioactifs les matériaux.
En énergie uniquement.
En énergie, oui.
En énergie.
Est-ce qu'il n'y a pas une méthode, une mesure quelconque qui utilise, au contraire, l'irradiation, enfin l'irradiation des matériaux pour détecter certains phénomènes.
Je vous en ai parlé, l'analyse par activation, les impuretés, là, Là vous induisez la radioactivité, justement. Vous transformez l'impureté qui était stable, normale, donc on pouvait pas la voir, en impureté radioactive, donc qui va émettre un rayonnement que vous avez détecté, et en fonction de la quantité de rayonnement, disons entre guillemets, vous saurez quelle quantité d'impureté vous avez. Et on induit, oui, bien sûr.
Et quand on parle d'impureté, en fait, quand dans un alliage, c'est des impuretés, finalement. Est-ce qu'on sait déterminer la composition exacte de l'alliage, quel que soit le nombre de composants, grâce à cette matière?
Tout à fait, parce que chaque atome, donc noyau qui va être activé, a une signature particulière, comme nos empreintes digitales. D'accord ? Et donc, en fonction de ce que vous récupérez en énergie, par exemple, si vous avez récupéré un pic à 600 keV, ben c'est tel élément. Si vous avez un pic à 400 keV, c'est un autre, etc. Donc, si vous avez un mélange, c'est pas grave, parce que vous avez le spectre entier. Et à partir de là, vous avez divers pics et vous pouvez remonter à la composition. Non seulement l'identification, mais la quantité aussi, en fonction de la hauteur du pic.
Donc, on connaît exactement le pourcentage de chaque...
Ah oui, d'accord. Oui, absolument.
C'est ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle encore, je sais pas, la rétrodiffusion, non ?
Rétrodiffusion. Alors, gamma. La rétrodiffusion, c'est quelque chose qui est... Là, vous pouvez avoir rétrodiffusion. Alors, on utilise la rétrodiffusion plutôt dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, en prospection minière. Vous aviez rétrodiffusion, mais vous perdez un peu d'énergie, vous avez un angle de diffusion donné. Et ça aussi, ça dépend de la masse volumique du matériau que vous avez rencontré, d'où l'identité de ce matériau.
D'accord. Mais ça pose un problème de sécurité, dans ces cas-là?
Non, quand c'est dans un carottage.
Non, mais je parle par exemple pour un alliage ou des appareils.
Non, c'est fait en réacteur, ça. Hein.
Ah, c'est fait en réacteur.
Ah oui. D'accord. Ah oui, et vous approchez pas quand c'est ça. Donc le détecteur, il est loin. Vous êtes dans votre bureau avec votre ordinateur, vous avez le spectre, mais le truc, il peut être à 500 mètres, hein. C'est pas un problème. Hein.
Parce que j'avais vu des systèmes portatif, une espèce de pistolet qui permettait de détecter, enfin de connaître l'alliage d'un matériau.
Oui, ça dépend des quantités que vous avez. Oui, ça dépend. Ouais. En général, on se protège quand même, hein, plutôt. Hein.
Bien, merci. Une petite chose. Vous avez dit que la mode de l'irradiation des aliments passait. Est-ce que ça vient pas aussi du fait des accidents qui ont eu lieu dans certains centres d'irradiation où il y a eu un cas célèbre il y a, je crois, une quinzaine d'années, là, où il y a eu deux ou trois personnes qui se sont fait sévèrement irradier. Est-ce que problème de précaution n'est pas rentré dans le...
Alors, il y a très très longtemps, il y a eu des accidents quasiment mortels, d'ailleurs. Enfin, il y en a eu un en Italie. Vous avez vu les espèces de casemates, là, qui, donc vous avez des circuits comme ça avec des mètres de béton, bon, donc tout ça, les portes sont fermées, ne peuvent pas aller, bon. Et à un moment donné, c'était un vendredi soir, il y a un truc qui se coince quelque part. Bon, le gars, il essaye de manœuvrer, il n'y arrive pas, le temps passe, il voulait partir en week-end. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les portes, il s'est accroché dans un truc et puis il est parti sur le rail, quoi, pour décrocher. Ben, il n'est pas sorti vivant. Bon. Donc, pourtant, il le savait. Parce que, bon, voilà. Alors, on a augmenté encore, à partir de là, les sécurités et autres, si vous voulez. Mais en disant, il faut qu'il y ait toujours deux personnes. C'est un peu comme notre accident, là, des pilotes avec la Germanwings. Bon, à chaque fois, on dit, voilà, il faut aller encore un peu plus loin. Après, les accidents dont vous parlez, les très graves accidents d'irradiation qui ont conduit même à des morts, il y en a même eu 7 en Espagne, ça s'appelait Le Canard Enchaîné avait titré 7 morts sur ordonnance, c'était facile, hein, bon. C'était du médical, là. C'était de l'irradiation médicale. Hein. Donc, où là, effectivement, avec. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne dépasse pas les 10 MeV, ce qui est vrai avec les sources de cobalt 60, mais pas si vous avez un accélérateur d'électrons. L'accélérateur d'électrons, si vous montez, vous montez. Hein. Bon. Et le truc, il s'était déréglé, et personne ne s'en est rendu compte. Donc, voilà. Alors, les gens, ils ont été beaucoup plus irradiés. Que ce qu'il fallait. Mais ça, c'était médical. C'est-à-dire là où il y a eu vraiment des accidents, c'est médical. Non, c'est pas ça qui a arrêté, c'est que, si vous voulez, vous avez un contrôle de l'Europe, et l'Europe, en beaucoup, est dominée par les Allemands, et les Allemands ont pris toutes ces commissions-là, et comme ils sont très anti-nucléaires, dès qu'il y a le mot radioactivité et tout ça, ça leur fout des boutons, quoi. Donc, du coup, voilà, ils ont vraiment phagocyté le truc. Mais autrement, c'est dommage, parce que c'est... effectivement, le meilleur procédé de conservation. Je pense que ça reviendra un jour, hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Mais on l'utilise quand même sans le dire, je dis effectivement, pour les malades. Pour les malades, il y a des tas d'hôpitaux, je ne sais pas en France, hein, mais en Angleterre en tout cas, ça je sais qu'ils font, qui se réalisent lorsqu'ils doivent avoir effectivement des aliments, si vous voulez, bien stériles et autres. Donc on utilise ce traitement-là. Hein. Bon, les cosmonautes, hein, parce que bon, il ne faut pas qu'ils soient malades, donc on fait très très attention à ça. Donc là, ça ne se discute pas. Depuis les années 50, à la NASA, c'est la première à commencer. Hein. Donc voilà, ça apporte un plus. Bon, on n'a pas toujours besoin de ça, c'est clair. Bon, ce que j'ai dit, on n'est pas obligé de conserver, mais si on doit conserver, autant utiliser le procédé le meilleur.
Bien, merci Monsieur Fauss, et à une prochaine fois. Donc, merci d'être venu.